Bienvenue sur Radio Pueblo.
Radio Pueblo, après la pluie, vient le beau temps.
Bienvenue sur le podcast Radio Pueblo.
Vous allez écouter les 5M4 et les Ulysse de Pablo Neruda.
Radio Pablo, on se donne à fond pour ne pas fondre.
Radio Pablo, après la pluie, il y a le peu de temps.
Bonjour à tous et bienvenue sur la clé des ondes pour notre émission Radio Pablo.
Après la pluie, vient le beau temps.
Aujourd'hui, parlons du changement climatique. Mais Vito, qu'est-ce que le changement climatique ?
Anna, tu sais que la température moyenne de la surface terrestre augmente. Le thermomètre mondial a augmenté de plus de 1 degré en un siècle et va encore grimper. Les experts estiment que la température moyenne pourrait continuer d'augmenter de 1,5 degré à 2 degrés, voire même plus de 3 degrés, d'ici 2100 si l'on ne fait rien. Mais sais-tu à quoi est due cette hausse de température ?
En fait, la Terre est entourée d'une atmosphère composée de gaz. Lorsque la lumière du soleil pénètre dans notre atmosphère, une partie de la chaleur du soleil est piégée par les gaz que nos activités humaines rejettent. Ces gaz retiennent la chaleur. Résultat, la température de la Terre augmente.
Et cela provoque des conséquences très graves, comme la fonte des glaciers, donc des inondations plus fortes, la disparition d'espèces animales, des cyclones beaucoup plus violents, des sécheresses, des vagues de froid et j'en passe.
Bref, un dérèglement total de la nature et donc de la vie.
En gros, la Terre a de la fièvre et d'autres maladies.
Allez, commençons l'émission.
Aujourd'hui, au sommaire. Premièrement, le projet Capel.
Nous poursuivrons avec le traitement des déchets pour continuer la canicule.
Puis l'interview du maire Clément Rossignol-Pouèche qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Ensuite, les panneaux solaires.
Puis la deuxième vie des œufs usés.
Et finalement, un micro-trottoir sur l'alimentation.
Radio Pablo. Après la pluie, il y a le beau temps.
Aujourd'hui, vous êtes sur la radio de Pablo Neruda.
Bonjour Cali et Olivia.
Bonjour.
Maintenant, parlons d'un quartier très innovant, le projet Capel.
Et oui Anna, un quartier très original. Chers journalistes, pouvez-vous nous le présenter ?
Bonjour chers auditeurs, nous allons donc vous présenter le nouveau quartier qui fait parler,
le quartier de l'avenue Capel.
Le projet Capel a été lancé le 23 novembre 2023. Il se situera dans le quartier Terre-Neuve à Bègles et sera fini normalement en 2028-2029.
Mais qu'est-ce que le projet Capel ? Pour répondre à cette question, nous avons interrogé l'architecte du projet, Jérémy Nadeau. Avec son associé et ses collaborateurs, ils sont installés au-dessus du chapiteau. Il nous a très bien reçus et nous avons été très heureux de voir les maquettes, les conditions de travail, l'avancement des projets de son cabinet.
Le projet Capel est un ensemble de 10 bâtiments qui prévoit 175 logements familiaux, une résidence étudiante et de jeunes actifs, un espace de travail partagé, des commerces et même des serres en toiture.
Oui, parce qu'il y aura une ferme d'aquaponie sur les toits des bâtiments, ce qui limitera la chaleur dans les logements. Elle sera la plus grande ferme urbaine d'Europe. Laissons Jérémy Nadeau nous expliquer.
On a travaillé avec les nouvelles fermes, des partenaires, qui eux vont mettre en œuvre la ferme aquaponique. Que j'espère que vous avez compris, à travers l'aquaponie, on ne plante pas les plantes dans la terre. C'est des bacs avec de l'eau et des poissons qui sont en pisciculture, qui nous permettent de produire les fruits, les légumes, les salades. Moi je pense que c'est quelque chose de très, très marrant. C'est un superbe sujet pour réintégrer l'agriculture dans les villes.
Avez-vous compris en quoi consiste l'aquaponie ?
L'aquaponie est une méthode d'élevage de poissons et de culture de plantes en même temps. Les déchets produits par les poissons sont utilisés comme source de nutriments par les plantes. Des légumes comme des salades, aromates, fraises, haricots, pourront donc être cultivés avec des racines qui ne poussent pas dans la terre, mais sur des radeaux et dans l'eau.
Oui, l'aquaponie est une solution 100% développement durable, car elle utilise 90% d'eau en moins qu'une culture classique. Elle n'utilise pas de pesticides, consomme très peu d'énergie, permet une production en continu et peut s'installer en ville ou dans des espaces limités.
Il y aura aussi des magasins en dessous des logements et des spectacles seront organisés par des associations.
Jérémy Nadeau nous présente les actions mises en place à Capel pour s'adapter au changement climatique.
Donc sur le projet Capel, comme je vous ai dit, on n'a pas créé de parking en sous-sol. Donc déjà, ça c'est un des sujets les plus importants aujourd'hui pour protéger les sols de nos villes. La ville, c'est un des seuls endroits où on peut encore construire sans que ça ait un impact trop violent sur le territoire. Moi, en tout cas, ma posture, je préfère construire la ville sur la ville, construire un peu en ville pour densifier, plutôt que d'aller construire des terres agricoles qui n'ont pas vocation à être bétonnées. Donc pour moi, il faut utiliser les endroits où il y a beaucoup de réseaux, où il y a beaucoup de gens, pour densifier un peu. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est protéger les sols. Pas de parking en sous-sol, donc on a mis les voitures au premier niveau. Et ce que je vous ai expliqué, c'est qu'en mettant les voitures au premier niveau, le jour où on n'aura plus besoin de voitures, on pourra changer la fonction de ce parking et faire un terrain de sport, faire des bureaux, faire des logements. C'est penser à la mutation des bâtiments, ça c'est le premier geste écologique. Et vous savez plus que tout, en discutant avec les gens, je pense que le premier impact écologique, c'est faire des bâtiments qui plaisent aux gens. Parce qu'imaginez, on fait un bâtiment qui consomme très peu d'énergie, qui est extrêmement performant en termes de qualité climatique, donc bioclimatique, on dit. Mais si personne ne l'aime, je pense que déjà la première source d'écologie, c'est penser aux autres. Essayer de penser un projet à plusieurs, de faire en sorte qu'il soit vécu et imaginé par toutes les personnes qui vivent ce quartier. Et à mon avis, c'est là où on aura gagné la question aussi climatique, en passant par la reconnaissance de ce que pensent les gens. Et en dernier lieu, le fait de faire des serres sur les toits, ça nous permet, un, d'amener un service nourricier, de produire de la nourriture pour les gens du quartier. Ça permet de créer de l'emploi. Donc ça aussi, c'est une question écologique, c'est redonner de l'emploi à des gens qui ne l'auront pas forcément facilement. Et en plus, thermiquement, c'est-à-dire au niveau de la surchauffe et du froid, ce que je vous ai expliqué, d'avoir des serres sur un toit, c'est comme si on mettait un manteau autour de nous, ça protège thermiquement. Quand il fait très chaud, ça nous permettra de créer un tampon thermique, de surchauffer les serres et d'évacuer l'air avant qu'il rentre dans les logements en dessous. Et l'hiver, vous imaginez bien, quand on rajoute une maison sur une autre maison, eh bien, il fait plus chaud en dessous.
Le projet Capel permet donc de vivre en ville avec la possibilité de faire se rencontrer différentes activités et habitants avec un système plus écologique. On espère que les gens se parleront et créeront du lien grâce au sport et à la culture par exemple.
On imagine des choses, on a des idées comme vous, j'imagine que vous avez des idées pour l'avenir, mais on n'est pas sûr de ne pas se tromper des fois. Mais franchement, il ne faut pas avoir peur de se tromper, il faut oser. Voilà, on parlait tout à l'heure d'exposer nos idées, vous en avez plein, ça se voit, il ne faut pas avoir peur d'en parler. Mais il me tarde, moi, de vous voir faire plus tard.
Comme nous a dit M. Nadeau, il ne faut pas avoir peur de se tromper et surtout croire en soi.
Et bien évidemment, ne pas s'empêcher de réaliser ses rêves.
Merci, Cali et Olivia. Après cette explication, on a tout de suite envie de visiter ce quartier.
Bienvenue sur Radio Pueblo.
Radio Pablo, après la pluie, vient le beau temps. Radio Pablo, on se donne à fond pour ne pas fondre.
Radio Pablo, après la pluie, vient le beau temps.
Bonjour Julie et Louane.
Bonjour.
À présent, c'est à vous de nous parler du traitement des déchets.
Bonjour chers auditeurs, bonjour Éloane.
Bonjour Jules, parlons des déchets à Bègle. Mais avant, nous allons vous poser une question. Vous avez une ou deux seconde pour répondre.
Vrai ou faux ? Existe-t-il un septième continent ?
Oula, non, ça va pas à la tête ! Un septième continent, n'importe quoi !
Et si, il existe bel et bien un septième continent dans le Pacifique qui s'est formé à partir de millions de tonnes de détritus. Il fait trois fois la taille de la France.
Quoi ? C'est épouvantable ! Il faut absolument trier nos déchets ! Mais c'est si dur que ça de les trier ?
Non, pas du tout. Les déchets verts dans le compost, les recyclables au recyclage et le minimum à l'incinérateur.
Maintenant, vous savez trier vos déchets, donc plus d'excuses. Nous avons interviewé Alexandra Miniki, responsable du service de transition écologique de la commune de Bègle.
Oui, alors effectivement, la commune de Bègle n'est pas compétente pour la collecte des déchets des ménages, donc des habitants, des vôtres, de vos parents, etc. Mais on gère nos propres déchets que l'on génère à la mairie, et notamment la plus grosse part des déchets, c'est les écoles, et notamment les repas des écoliers. On a mis des tables de tri dans chaque cantine, et les élèves doivent trier leurs déchets, donc les déchets recyclables, les déchets alimentaires et les déchets qui ne sont pas recyclables. Et ensuite, on trie, il y a une filière spécifique pour chaque déchet. Et chaque semaine, on a une entreprise qui vient collecter les biodéchets, une autre qui vient collecter les déchets recyclables.
Nous nous sommes aussi intéressés à la cuisine centrale et à Nicolas Madet qui en est le directeur depuis 2019.
Dans les écoles primaires et maternelles, on a des tables de tri. Avant de sortir du réfectoire, les enfants trient dans des tables de tri. Donc il y a une poubelle où on va y mettre tous les biodéchets. Et tout ce qui est de plastique ou serviettes et autres, ça va être mis dans une autre poubelle.
Existe-t-il des projets à venir ?
Oui, projet, on y travaille, mais on peut travailler sur ce projet qu'avec les enfants. Parce qu'en fait, le but pour nous, c'est de gaspiller le moins possible la nourriture. Donc quand on envoie 3000 repas par jour, le but pour nous, c'est que, un, déjà, on n'en ait pas fait trop. C'est-à-dire qu'il ne reste rien dans les écoles à servir. Et puis ensuite, on évite ce qu'on appelle la surproduction, c'est-à-dire on évite de fabriquer pour rien. Et ensuite, dans les écoles, on sert des portions aux enfants et le but, c'est que les enfants mangent toute leur assiette et qu'ils ne jettent pas juste une pomme dans la poubelle en ayant croqué un tout petit bout ou qu'ils aient pris le fromage sans le manger ou bien qu'ils aient demandé une grosse portion de purée et que finalement, ils vont en manger qu'une cuillère. Il faut travailler avec les enfants pour faire en sorte qu'on réduise le gaspillage alimentaire. Et ça, c'est le projet qui nous le tient le plus à cœur.
Une nouvelle cuisine centrale verra le jour en 2025. Avec ses nouveaux équipements, elle pourra servir 445 000 repas par jour, soit 3500 par jour. Avec 70% de produits bio, elle mettra aussi en place un atelier pédagogique. Ce projet coûtera environ 7 millions d'euros.
C'était Jules et Éloane, merci de votre écoute.
Merci à vous d'avoir trié toutes ces informations. Au revoir Éloane.
Au revoir.
Au revoir Jules.
Au revoir.
Bienvenue sur Radio Pablo.
Radio Pablo, après la pluie, vient le beau temps.
Radio Pablo, on se donne à fond pour ne pas fondre.
Radio Pablo, après la pluie, vient le beau temps.
Reprenons l'émission en écoutant Anaïs et Louise, qui vont nous parler de la canicule en ville. Bonjour Anaïs, bonjour Louise.
Bonjour. La canicule est une période de chaleur intense qui dure 3 jours et 3 nuits consécutives. Faites attention à vous. Nous avons interviewé Alexandra Miniki, responsable du service transition écologique à la mairie de Bègles, pour en savoir plus sur la canicule et les actions de lutte mises en place à Bègles.
Alexandra Miniki, pouvez-vous nous expliquer les dangers de la canicule ?
Il y a déjà le risque pour la population en elle-même, puisqu'effectivement, la canicule, notamment pour les personnes âgées, les personnes malades, etc., les trop fortes températures, ça peut les affaiblir davantage. Et on a la grosse problématique de la sécheresse, du coup, pour nos terres, pour la faune, pour la flore, mettent à mal toute la biodiversité. Et après, c'est un enchaînement de problématiques. On peut avoir des problématiques au niveau de l'eau. On voit les étés maintenant, les habitants qui ont des puits, par exemple à Bègles. Plus les années passent, plus les puits sont vides très tôt dans l'année. Il y a encore 5 ans, on avait de l'eau toute l'année. Maintenant, à partir du mois de juin, juillet, on n'a plus du tout d'eau dans son puits.
Quelles sont les actions mises en place à Bègles ?
Alors, il y a plusieurs choses qui sont faites. Déjà, un des aspects, c'est la végétalisation. Pour contrer la canicule, il faut mettre en place des îlots de fraîcheur. Et donc, du coup, on végétalise le plus possible les espaces pour que, justement, les personnes trouvent des lieux où se ressourcer. On est obligé aussi de prévoir des lieux rafraîchissant, où on doit mettre la climatisation, maintenant c'est obligatoire, pour justement que les personnes vulnérables, quand elles n'ont pas de climatisation chez elles, elles puissent se rendre dans ce lieu pour se rafraîchir. Donc dans toutes les écoles aujourd'hui, on a une salle où il y a la clim, donc pour les enfants, mais aussi pour les personnes qui pourraient y venir le week-end par exemple.
Dans notre collège, il n'y a pas d'espace climatisé prévu pour les personnes qui en auraient besoin.
En même temps, c'est le conseil départemental qui s'occupe de notre collège. À eux d'en décider.
En revanche, à Pablo, il y a des associations qui nous aident à végétaliser notre établissement. Par exemple, avec Ygraine, nous avons mis en place un jardin partagé dans la cour. L'atelier des bains-douches travaille même avec nous sur un projet de collège-jardin.
Alexandra Miniki nous a parlé d'îlots de fraîcheur, mais nous ne savions pas trop ce que c'est. Alors nous sommes retournés voir Jérémy Nadeau, l'architecte qui a son cabinet au-dessus de chapiteau, pour qu'il nous explique clairement.
Les villes, quand on marche dans la rue avec l'enrobé, vous voyez, les matériaux qui recouvrent les routes, c'est des matériaux noirs qui attirent le soleil. Donc on a des fortes montées en chaleur, en calories. On sent quand on marche dans la rue, des fois l'été, on a envie d'aller se protéger, de prendre de l'ombre. Et les îlots de fraîcheur, c'est ces îlots qui permettent de réduire les températures au niveau du sol. Et du coup, si c'est réduit au niveau du sol, l'air qui est transmis par souvent les plantes, hein, les îlots de fraîcheur, ça peut être à 90% des plantes, de la plantation qui nous permet de faire réduire les montées en température. Il y a aussi la présence de l'eau, de la fraîcheur dans les sols. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas rendre inertes tous les sols. Je ne sais pas si vous avez entendu de parler de la ZAN, la zéro artificialisation nette. Ça veut dire qu'il faut arrêter d'artificialiser les sols, c'est-à-dire de bétonner les sols qui permettent à l'eau de s'évaporer, de l'évapotranspiration, de pouvoir permettre au sol de réagir avec l'extérieur.
Voilà un dernier exemple de ce que la ville de Bègles prévoit pour limiter les effets de la canicule.
On met en place ce qu'on appelle aussi des micro-forêts. Les micro-forêts, c'est un concept où sur une parcelle assez petite, on va planter le plus possible de petits arbres. Et en fait, les plus solides vont résister. C'est une méthode japonaise. Les plus solides vont résister et dans quelques années, sur pas mal d'espace, on aura des forêts qui seront des micro-forêts, puisque c'est pas la forêt landaise, par exemple, on est dans une ville. Mais en tout cas, les gens pourront se rafraîchir. Et surtout, ça a fait des abris aussi pour la faune et la flore qui n'a plus forcément de solution.
Et toi, Naïs, te rappelles-tu avoir vécu de fortes chaleurs qui sont très dures à supporter ?
En effet, je me souviens avoir vécu des journées de cours très difficiles à cause de la chaleur. C'était début septembre, à la rentrée scolaire, jusqu'à même octobre. Puis, je me rappelle également d'un été où il y avait eu des méga incendies en forêt en Gironde.
Ensemble, nous pouvons trouver des solutions pour lutter contre la canicule et profiter de cette chaleur sans que cela soit trop dur à supporter.
Après ce sujet qui nous a fait transpirer, merci Anaïs et Louise de nous avoir parlé de la canicule en ville.
Bienvenue sur Radio Pablo.
Radio Pablo, après la pluie, vient le beau temps.
Radio Pablo, on se donne à fond pour ne pas fondre.
Radio Pablo, après la pluie, vient le beau temps.
Poursuivons avec Ryan et Ezio qui interviewent Clément Rossignol Pouèche, le maire de Bègles.
Aujourd'hui, nous recevons le maire de Bègles, M. Clément Rossignol Pouèche. Il est aussi vice-président de Bordeaux Métropole, en charge des mobilités. Bonjour, Monsieur le maire.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bravo à la Radio Pablo.
Merci. Nous avons écouté un reportage sur le projet Capel. Que pensez-vous de ce projet ?
Ah, je pense que c'est un très beau projet. D'ailleurs, vous l'avez très bien décrit. Vous avez interviewé aussi Jérémy Nadeau, l'architecte, hein, qui a fait le choix de s'installer à Bègles. C'est un projet qui, à la fois, propose des logements, parce que vous savez que sur Bègles et sur la métropole bordelaise, on manque de logements, notamment des logements sociaux pour les gens qui ont du mal à se loger, pour avoir des loyers peu chers, pour les familles notamment. Et donc ça va permettre aussi aux étudiants de se loger. Et puis également, c'est ce que vous avez dit, on essaie de trouver des solutions qui permettent de lutter contre le dérèglement climatique, à savoir notamment des logements bien isolés, utiliser un réseau de chaleur donc pour se chauffer, voilà, utiliser la chaleur du centre d'incinération qu'il y a sur Bègles, hein, où on brûle les déchets qui sont pas triés, pour venir chauffer les bâtiments. Et puis bien sûr aussi, ce que vous avez dit, les serres en aquaponie, c'est-à-dire à la fois faire du maraîchage, on pourra à nouveau cultiver des salades, des tomates et des radis, alors de saison, hein, bien sûr, avec en harmonie avec des truites saumonées qui seront dans des aquariums, vous l'avez bien décrit. Donc utiliser finalement les déjections des poissons pour faire de l'engrais pour les légumes. Voilà, en circuit court, et ça sera bio, bien sûr. Et ça sera vendu juste en dessous, à Terre-Neuve.
Est-ce que la mairie a-t-elle participé à ce projet ?
Alors la mairie, elle a participé à ce projet puisque les équipes avec les élus et puis également les agents municipaux, on a discuté avec ceux qui ont eu l'idée de ce projet, donc l'architecte, mais également un bailleur social, Villogia. Et puis également des personnes, des promoteurs qui construisent des logements. Et donc on a échangé ensemble pour essayer de trouver le meilleur projet. Et puis aussi avec les habitants. Il y a eu des réunions d'information et de concertation pour voir avec les riverains, les habitants, comment améliorer ce projet. Donc c'est un beau projet, on est content. On est impatient qu'il puisse être construit.
D'accord. Beaucoup de Bègles empruntent la route de Toulouse. Avez-vous prévu de faire des aménagements sur cette route ?
Oui, et c'est urgent, parce que c'est difficile, cette route de Toulouse, elle est toute cabossée, il n'y a pas de piste cyclable, il y a peu de végétalisation hein, pour les îlots de chaleur, ce que vous avez dit. Mais la difficulté, c'est une route qui est sur 4 communes à la fois, donc ça n'a pas été géré entre la ville de Bordeaux, la ville de Talence, Villeneuve-d'Ornon et Bègles. Donc enfin, on a réussi à être d'accord sur un projet d'aménagement pour favoriser les bus. Donc il y aura des couloirs de bus, et il y aura des pistes cyclables, et il y aura également des végétalisations, hein, des arbres qui vont être plantés, parce que dans les solutions pour lutter contre le dérèglement climatique et les émissions de gaz à effet de serre, hein, qui augmentent la température, comme vous l'avez dit, et bien c'est aussi la mobilité, c'est comment on se déplace. Et donc c'est développer les transports en commun, et donc à terme, il y aura des bus en site propre et des pistes cyclables confortables pour qu'on puisse faire du vélo en toute sécurité. Parce qu'en ce moment, je ne sais pas si vous avez essayé de faire du vélo sur la route de Toulouse, mais c'est quand même très compliqué. Donc voilà, donc pareil, ça met un peu de temps, il y a eu de la concertation, les habitants se sont exprimés, et les travaux devraient commencer l'année prochaine et se terminer dans 3 ans, parce que ça va être long, parce qu'on va refaire aussi tous les réseaux souterrains. L'assainissement, le gaz, l'électricité, voilà, ce sera un très beau projet. Et à terme, peut-être, ça sera même peut-être un bus express, c'est-à-dire un bus électrique, silencieux, très confortable.
Quels impacts environnementaux positifs espérez-vous obtenir grâce à la végétalisation de la ville ?
Alors, vous l'avez dit, tout d'abord, lutter contre la chaleur. C'est-à-dire que quand on végétalise une ville, les arbres évaporent l'eau qui puise avec leurs racines. Et donc, quand il y a plus de vapeur d'eau, on a une sensation de fraîcheur. Donc, ça fait des îlots de fraîcheur. Après, c'est bon pour la biodiversité. Alors, la biodiversité, vous le savez, c'est avoir le plus d'essence possible, d'essence végétaux et animaux, hein, voilà, des plantes et des. Parce qu'en France, et des animaux, parce qu'en France et dans le monde, vous avez parlé de changement climatique, mais il y a aussi un autre enjeu très fort environnemental, hein, c'est la chute de la biodiversité, à savoir la disparition à la fois des espèces et des écosystèmes, végétales et animales, les plantes et les animaux. Il faut savoir qu'en Europe, on pense que 80% des insectes, donc 8 insectes sur 10, ont disparu. Et donc, pas d'insectes, ça veut dire qu'il y a moins d'alimentation pour les oiseaux, par exemple, donc un risque de disparition d'oiseaux, et pas d'insectes. Les insectes, à quoi ça sert ? Ça sert aussi à polliniser. Et la pollinisation, ça sert à l'agriculture. Et l'agriculture, c'est ce que nous avons dans nos assiettes. Donc s'il n'y a plus d'insectes, il y a aussi des problèmes d'alimentation. Donc c'est très important de sauvegarder la biodiversité. Et donc c'est pour ça que quand on végétalise une ville, on fait attention aussi à quel type d'arbres on met pour pouvoir attirer et recueillir et protéger à la fois les végétaux, mais aussi bien sûr les insectes et les oiseaux. Okay.
Madame Iniki, qui travaille à la mairie de Bègles, nous a présenté des actions pour limiter les effets de la canicule dans notre ville. Pouvez-vous nous parler d'autres initiatives comme celle pour réduire les émissions de CO2 sur Bègles?
Alors, j'en ai cité quelques autres. Alors, je vais citer 2 autres exemples. Il y a, vous avez interviewé la cuisine centrale, le responsable de la cuisine centrale, qui est municipale, parce que la façon dont on mange aussi, ça a un impact plus ou moins important sur le climat. Ça peut paraître étonnant, mais c'est vrai, parce que suivant les aliments que l'on consomme, il faut plus ou moins d'énergie, plus ou moins de pesticides, plus ou moins de produits chimiques pour les produire. Et donc, les produits chimiques, l'énergie, etc., ça émet des gaz à effet de serre, et donc ça vient dérégler le climat. Et donc, les aliments qui, finalement, ont un poids plus important sur le climat, qui dérèglent plus le climat, notamment, c'est la viande. Et donc, on essaye de réduire la viande à la cantine. Alors, continuer à faire des repas qui sont agréables, qui donnent envie, hein, qu'on puisse en manger, hein, bien sûr, des nouvelles recettes. Mais c'est aussi démontrer qu'on peut très bien se nourrir, même quand on est à l'école primaire, hein, entre 6 et 12 ans, en pleine croissance, sans viande forcément à tous les repas. Et pour être prêt, faire une transition de toute la société sur l'alimentation. Et le deuxième exemple, c'est démontrer aussi qu'on n'est pas obligé d'acheter des objets neufs qui durent pas longtemps, le plus souvent possible. Ça, c'est un problème aussi. C'est qu'on a beaucoup de publicités sur les réseaux sociaux, par exemple, qui nous donnent envie d'acheter toujours plus, par exemple, des vêtements. mais des vêtements qui viennent durer une semaine ou 15 jours ou 3 semaines et puis après ils sont déformés, ils sont plus à la mode, on n'en veut plus. Enfin, ça s'appelle la fast fashion. Donc vous avez vous-même ou des grands frères ou des grandes sœurs ou des amis un peu plus âgés qui sont sur les réseaux et qui voient des influenceurs. Donc on essaye de aussi convaincre que finalement l'occasion c'est très bien ou des produits durables c'est encore mieux, qui durent dans le temps. Et on travaille notamment avec une association sur Bègles que vous connaissez peut-être qui s'appelle La Boucle, qui est une ressourcerie et qui permet de redonner vie à des objets, c'est-à-dire réparer un peu des objets ou avoir des objets qui durent plus longtemps. Allez-y, hein, c'est gratuit, c'est sympa.
Ok. Le week-end dernier, après les élections européennes qui a mis le Rassemblement national en tête des suffrages, le président Macron a dissous l'Assemblée nationale. Comment le Parti d'Europe Écologie Les Verts appréhende les élections législatives du 30 juin et du 7 juillet ?
D'accord, c'est une question très politique. Merci de l'avoir posée, c'est important. Alors tout d'abord, à Bègles, le Rassemblement national n'est pas arrivé en tête. Donc je suis très fier des résultats de ma commune. Par contre, c'est évidemment très inquiétant, cette montée de l'extrême droite, des populismes, du fascisme, notamment en Europe et en France, hein, puisque avec ces partis politiques, ce qu'ils veulent, eux, c'est détruire la démocratie. C'est faire ensuite, une fois qu'ils seront au pouvoir, j'espère que ça n'arrivera jamais, eh bien affaiblir les contre-pouvoirs. Hein. Ça veut dire affaiblir la presse, affaiblir la justice, affaiblir les autres partis politiques, affaiblir les syndicats, affaiblir les associations. Voilà, donc que ce soit un monde qui soit plus dur, un monde où il y a moins de liberté, contrairement à ce qu'ils disent. Donc il faut vraiment se mobiliser tous ensemble hein, pour éviter cela. Et donc, comment j'appréhende les élections ? Eh bien, en mode extrêmement mobilisé. Il y a eu hier soir une réunion des responsables des partis politiques de gauche et écologistes qui se sont réunis au siège national d'Europe Écologie Les Verts à Paris et qui ont signé une tribune unanime ensemble pour lancer le Front Populaire Écologique et Social. Le Front Populaire, ça fait référence à ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale, pour être unis aux élections législatives pour faire barrage au Rassemblement national et à Reconquête. Voilà. Et à une partie de la droite qui maintenant apparemment a appelé dès ce matin que certains allaient se rapprocher du Rassemblement national. Ça fait peur, donc il faut se battre. C'est comme pour le changement climatique, les solutions elles sont là, il faut qu'on arrive à convaincre et également à emporter tout le monde, quoi. C'est pas si on est que quelques-uns à se battre, ça marchera pas. Donc il faut qu'on trouve des solutions collectivement.
Et vous, monsieur le maire, à titre personnel, que pensez-vous de cette dissolution ?
Je pense que Emmanuel Macron, le président de la République, joue avec les institutions. Il ne respecte pas les institutions de la Ve République. Une dissolution, il joue au poker, quoi. Il testait cette idée depuis quelque temps déjà, à vrai dire, dans les cercles du pouvoir. Mais je pense que c'est pas une bonne chose. Voilà. Les élections européennes, d'ailleurs en France, se sont mal passées. À mes yeux, au niveau européen, les populismes sont montés, mais pas tant que ça. Finalement, les autres pays ont bien résisté, à part l'Allemagne. Et donc, en faire un référendum pour ou contre Emmanuel Macron, c'est vraiment une mauvaise chose. Donc, moi, je suis vraiment fâché de sa réaction. Mais là, on est vraiment dans la politique. Hein, donc, vous avez posé des questions, j'ai répondu, bien sûr.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Beaucoup. Merci. Félicitations.
Merci.
Merci Ezio et Ryan pour cette interview. Voilà, c'est la fin de la première partie. Nous vous laissons avec Loué et Marwa. Pendant la pause, écoutons Jamiroquai, When You Gonna Learn.
Consequences are so grave, so, so grave now. The hypocrites, we are their slaves. So my friends, to stop the end, on each other we depend. Oh, we depend. Mountain high in liberty, stop it going on.
is on the menu in my favorite restaurant. Well, don't talk about quantity, 'cause there's no fish left in the sea. Greedy men been killing off the lot the rest of us, and you better play it nature's way, or she won't take it all away. And don't try and tell me you know my band, her bad right from wrong. Oh, you've upset the balance, man, done the only thing you can. Now my life is in your hands. Man and high and gravity, oh yeah. We've got it, stop it going on. We gotta wake this world up from its sleep. Oh, people, stop it going on.
Anna et Vito pour la présentation de la première partie.
Bonjour, nous sommes Marwa et Louay.
Bonjour Louay.
Bonjour Marwa.
Nous allons animer cette deuxième partie de l'émission. Vous êtes toujours sur la clé des ondes avec Radio Pablo, la clé de la réussite climatique. Allons-nous tomber dans le panneau
solaire ?
Bonjour Gwendal. Bonjour Yanis.
Bonjour. Encouragé par des idées, les panneaux solaires représentent une solution à la transition énergétique. Nous voulons en savoir plus sur ces panneaux. Y a-t-il un impact écologique lors de leur conception ? Quels sont les freins à leur installation ? Et enfin, y a-t-il des idées locales ?
Pour répondre à ces questions, nous avons interrogé Pierre Fauvet de l'association Sol et Vent, créée par 8 citoyens désireux d'agir pour la transition énergétique. L'association a pour but de réunir les personnes autour d'un projet collectif et d'installer des panneaux solaires de manière vertueuse.
Monsieur Fauvet, les matériaux utilisés pour la fabrication des panneaux solaires sont-ils rares et polluants ?
Il y a une idée reçue effectivement qui circule selon laquelle les panneaux photovoltaïques contiennent des terres rares. C'est faux, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est de quoi est constitué un panneau photovoltaïque. En fait un panneau photovoltaïque c'est aux trois quarts du verre. Le verre on sait le produire, on sait le recycler, on sait l'utiliser, c'est pas forcément une problématique. Donc trois quarts du panneau c'est du verre. Ensuite il y a de l'aluminium. L'aluminium c'est pareil, on sait le travailler, c'est pas un matériau qui est critique. Ça veut pas dire qu'on l'a en quantité illimitée, ça veut simplement dire qu'il n'y a pas de zone critique là-dessus à l'heure actuelle. Ensuite, il y a tout un tas de petits composants qui viennent à des pourcentages très très fins, de l'ordre de 1 à 2% dans le panneau, donc il n'y a pas forcément de tension. La silice par exemple utilisée pour le panneau photovoltaïque qui va créer cette réaction permettant de produire de l'électricité. C'est le deuxième composant en abondance sur la Terre. Donc on n'est pas, a priori, on n'est pas contraint par cela. Ensuite, il peut y avoir des questions sur le cuivre, parce que ça, pour le coup, le cuivre, on est plus tendu. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas de risque de ce point de vue-là.
Quels sont les freins à l'installation des panneaux solaires en France ?
Il y a plusieurs choses qui vont freiner le développement des énergies renouvelables. La première, ce sont des questions financières. Ça coûte cher, ça reste accessible ou relativement accessible, mais comparé à des centrales nucléaires qui sont déjà existantes et sur lesquelles on peut renouveler le parc, effectivement, ça peut coûter cher. Le deuxième frein, ça va être un frein politique, vision politique. Qu'est-ce que j'ai envie pour mon devenir ou ma vision 2050 en France. Un autre frein, ça va être les idées reçues. Il y a encore énormément d'idées reçues sur la nocivité de la production des panneaux, sur son non-recyclage, sur sa durée de vie. Ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille au quotidien pour essayer de lever ces idées reçues. Il y a une récente enquête d'OpinionWay là, qui est sortie, montrant qu'il y avait deux tiers des Français qui étaient encore pas ou très peu informés sur le fait que des centres de recyclage de panneaux photovoltaïques existaient en France. Et juste pour la petite anecdote, ils sont pas loin d'ici. Il y en a un centre de recyclage qui n'est pas loin d'ici, puisqu'il est à Saint-Loubès. Donc c'est en train de se mettre en place et c'est donc toutes ces idées reçues freinent aussi le développement des panneaux photovoltaïques.
Au niveau local sur la ville de Bègles, y a-t-il des aides favorisant l'installation des panneaux solaires ?
Oui, alors la ville de Bègles nous a mis le pied à l'étrier, de Saulévent, en nous faisant confiance dès le départ. C'est dans une maison de Bègles qu'on a signé les statuts de Saulévent. C'est sur la ville de Bègles que l'on a équipé nos deux premiers projets sur des toitures d'école, sur l'école Marcel Samba et sur l'école Gambetta donc de Bègles. Donc effectivement, la ville est plutôt motrice de ce point de vue-là, nous encourage, nous soutient. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, il y a des discussions qui sont engagées pour qu'est-ce qu'on fait maintenant. Ces deux projets sont équipés, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la ville continue par elle-même à installer des panneaux photovoltaïques, à développer ses énergies renouvelables? Est-ce qu'on soutient la ville? Est-ce qu'on aide la ville en substituant le financement, hein? Parce que c'est ça le nerf de la guerre, hein, finalement. C'est le financement. Voilà, les discussions continuent à avancer, c'est plutôt positif.
Merci Yannis et Gwendal de ne pas nous avoir fait tomber dans le panneau.
Bienvenue sur Radio Pablo.
Radio Pablo, après la pluie, vient le beau temps.
Radio Pablo, on se donne à fond pour ne pas fondre.
Radio Pablo, après la pluie, vient le beau temps.
Voyons si nous pouvons donner une seconde vie aux eaux usées. Bonjour Nation, bonjour Vito.
Bonjour. Bonjour à tous. Nous allons vous parler de notre visite à la station d'épuration Louis Farg. Grâce à un espace pédagogique très bien fait et des expériences et des enquêtes, nous avons compris comment les eaux usées étaient traitées.
Les eaux usées sont les eaux qui proviennent de l'activité humaine ou comme celle de la maison, des hôpitaux, des usines et qui vont ensuite dans une station d'épuration.
Julien Friedrigo travaille au service de communication de la SABOM de Bordeaux Métropole. Il nous explique le fonctionnement de la station d'épuration.
Alors une station d'épuration, c'est une usine qui est là pour traiter les eaux usées. Les eaux usées, c'est les eaux qu'on a déjà utilisées, hein, les eaux usées domestiques notamment, qu'on a déjà utilisées chez nous, que l'on a souillées, qu'on a polluées avec de la matière organique, donc des excréments, mais aussi avec tous les produits chimiques qu'on peut utiliser chez soi. Donc la station d'épuration va traiter ces eaux usées pour protéger le milieu naturel, pour pas polluer la nature et les cours d'eau. Et donc elle va traiter ces eaux usées en plusieurs étapes. D'abord, l'eau brute, on dit que l'eau brute, hein, l'eau elle arrive, elle est dégrillée, elle passe à travers des grilles pour enlever les gros déchets. Ensuite, on passe une étape de dégraissage, dessablage, où on va enlever le sable et la graisse. Ensuite, cette eau qui a été dégraissée, dessablée, dégrillée, va passer par une étape de décantation, où là on va laisser reposer l'eau, où la matière organique, hein, plus dense que l'eau, un peu plus lourde, va tout doucement couler au fond des bassins. Et on va récupérer cette matière organique au fond des bassins que l'on va appeler nous désormais les boues d'épuration. Donc l'eau après être décantée va passer par une dernière étape de traitement, la biofiltration. On fait passer l'eau à travers un filtre constitué de petites billes d'argile. Et les petites billes d'argile vont bloquer ce qu'on appelle la matière suspension encore présente dans l'eau. Et chaque petite bille d'argile contient aussi des êtres vivants. On va être l'habitat de milliers d'êtres vivants, les bactéries. Et lorsque l'eau va passer à travers ces billes d'argile, les bactéries vont finir ce travail de dépollution, donc se nourrir de la pollution dans l'eau. C'est donc la dernière étape. Donc après, l'eau qui traverse le filtre va pouvoir être rejetée en Garonne. Attention, il y a encore un petit peu de pollution dedans. La station d'épuration ne peut pas tout enlever, mais c'est la nature qui va s'en charger. Ça s'appelle l'auto-épuration. Donc les rayons du soleil, les micro-organismes de la rivière, ainsi que les plantes.
C'est Bordeaux Métropole qui gère et finance la SABOM. Sur l'agglomération, on compte 6 stations qui permettent de traiter les eaux usées de tous les habitants. Mais quels sont les défis pour l'avenir du traitement des eaux ?
Alors les défis pour l'avenir, tout à l'heure je vous ai dit que la station d'épuration ne pouvait pas tout traiter. Et notamment on utilise de plus en plus de produits chimiques. Et certains produits chimiques passent à travers les étapes du traitement et se retrouvent dans le milieu naturel et peuvent avoir des effets nocifs, néfastes pour la biodiversité. Ces produits chimiques, on appelle ça des micropolluants. Les micropolluants, c'est des substances qui proviennent de nos produits d'entretien, de nos produits d'hygiène, des cosmétiques que l'on peut utiliser chez soi. Et lorsqu'ils se trouvent dans la nature, même à très faible dose, peuvent avoir un effet néfaste sur la biodiversité, sur la faune, donc les animaux, les invertébrés, etc., mais aussi sur la flore. Donc ça, c'est l'enjeu du futur, on va dire, c'est comment essayer de diffuser le moins de micropolluants dans le milieu naturel. Et donc il y a un grand enjeu à jouer au niveau des citoyens, c'est-à-dire si on apprend à moins salir nos eaux usées, à ne pas prendre les égouts pour des poubelles, bien, ça sera plus facile de nettoyer cette eau usée et de protéger le milieu naturel.
J'ai appris que lorsque les eaux sont usées, elles se dirigent dans des stations d'épuration pour être nettoyées. Mais elles ne seront pas buvables car il restera des bactéries dedans. Ces eaux sont rejetées dans la Garonne, direction l'océan.
Ce que j'ai retenu, c'est que lorsque nous nettoyons nos toilettes, notre salle de bain ou nos sols, nous utilisons des produits toxiques car ils se retrouvent sous la forme de micropolluants. Ils peuvent être nocifs pour le monde vivant dont nous faisons partie.
Merci Vito. Merci Nation pour cette visite. Au revoir.
Bienvenue sur Radio Pablo.
Radio Pablo, après la pluie, vient le beau temps.
Radio Pablo, on se donne à fond pour ne pas fondre.
Radio Pablo, après la pluie, après la vient pluie, le beau temps.
Merci Zion. Pour finir, parlons de nourriture avec Zion et Ina.
Bonjour. Nous sommes réunis pour vous parler d'un sujet très important. L'impact de l'alimentation sur l'environnement et sur le réchauffement climatique.
Mais Zion, d'après les sondages, la plupart des gens interrogés en ont conscience.
Forcément qu'ils en ont conscience, mais ils ne savent pas pourquoi. Et ce sont ces détails-là dont nous allons vous parler aujourd'hui.
Tiens, pourquoi ne pas aborder le sujet des produits locaux et de saison ?
Bonne idée.
À votre avis, est-il préférable de manger des produits locaux ? Pourquoi ?
Alors oui, c'est préférable de manger des produits locaux. Pourquoi ? Parce qu'ils sont, comme son nom l'indique, locaux, donc à proximité des zones d'approvisionnement. Donc, ils ne traversent pas la planète entière pour arriver dans notre assiette. Et que donc tout ça réduit les coûts et les émissions carbone, etc.
Je pense que c'est préférable. Après, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que en France, on n'a pas toujours tous les produits, et dans certaines saisons, ça peut être plus compliqué de manger bien que d'autres.
Oui, en effet, c'est préférable de manger des produits locaux, simplement pour faire travailler d'une part la production locale de nos agriculteurs, et aussi d'autre part pour éviter la pollution liée au transport des marchandises.
Surtout pour la crise agricole actuelle.
Néanmoins, c'est pas parce qu'on mange local qu'on mange forcément propre. Hein. Surtout en France où en ce moment les agriculteurs demandent à ce qu'on les laisse un peu mettre un peu tout et n'importe quoi dans la terre quoi. Mais bon, c'est quand même préférable de toute façon de manger local.
Évidemment, oui. Déjà comme ça on consomme les fruits de nos petits producteurs. C'est très important.
Les petits artisans, les pauvres.
Les petits artisans, on adore les artisans vraiment.
Nous, on est voilà. Tout
le monde. Et puis bah ouais, c'est important quand même. Vaut mieux hein. Puis même pour la planète, comme ça on n'exporte pas des trucs et tout,
voilà,
c'est chez nous.
Voilà, et on évite le réchauffement climatique.
Voilà.
Bah pour moi je dirais oui, je sais pas toi, mais je pense que c'est quand même bien de consommer des produits qui sont surtout locaux, mais qui sont produits Bah, en saisonnalité, en fonction de ce qu'on peut avoir dans nos ressources.
Bah, surtout que si c'est pas de saison, ça va être importé. Donc.
Est-ce important de manger des produits de saison ?
Oui, d'ailleurs, je pense que dans les supermarchés, etc., on n'en propose pas assez. On propose beaucoup de produits hors saison qu'on fait importer. Voilà, donc ça manque un petit peu de localité dans les marchés.
Ah oui,
ah oui,
oui
ah
parce
oui.
qu'on prend pas des trucs importés, c'est pas
toi,
bien.
Non, toi t'achètes des fraises en hiver, hein.
Merci. Oui, non, mais d'accord, mais j'essaye de faire local et en saison.
Ah ouais, local.
Et toi aussi point.
Ah ouais, local, je
Ok, super, fruits de France.
Dans cet extrait, beaucoup de personnes pensent que consommer des produits locaux et de saison est bon pour l'environnement. Et ils ont raison. Pas vrai, Zion ?
Oui, car ces agriculteurs adoptent souvent des pratiques agricoles durables, comme arrêter la surutilisation des pesticides et autres engrais néfastes pour la biodiversité. Mais manger local n'est pas forcément manger propre, donc bio.
Exactement. En choisissant les productions locales, vous soutenez majoritairement une agriculture respectueuse de l'environnement.
Merci. Donc l'agriculture locale est-elle bénéfique ?
Bien sûr, car l'un des plus grands avantages de consommer des produits locaux, la limitation des transports et donc les émissions de gaz à effet de serre. Bon, maintenant, pourquoi ne pas attaquer les fruits de saison ?
Ok, Ina, tout le monde est d'accord, les fraises en hiver, c'est pas bien. Mais quelles sont les autres saisons pour les autres fruits et légumes ? Allez, petit test. En quelle saison est-il préférable de consommer de la tomate ?
L'été ?
Eh oui, c'est une bonne réponse, car la tomate est comme nous. L'hiver, elle hiberne et au retour des beaux jours, elle est prête à repointer le bout de son nez. Ensuite, quelle est la saison des fraises ?
Je crois que c'est l'hiver.
Eh non, la pleine saison de récolte se situe entre avril et juin.
Et la viande dans tout ça ?
Pensez-vous que manger trop de viande a un impact sur le réchauffement climatique ?
Alors je vais répondre oui, je pense que manger trop de produits carnés en règle générale a un impact effectivement sur les territoires et donc sur le climat. Ouais.
Et est-ce que vous comptez ou avez réduit votre consommation ?
Oui, depuis un moment, pour des raisons éthiques et pas seulement climatiques ou environnementales.
Oui, ouais, un gros même. Moi je suis végétarienne donc j'en mange plus mais c'est pour ça justement que j'ai arrêté d'en manger.
En effet, manger de la viande, on le sait, ça a un impact sur le réchauffement climatique. Après, est-ce qu'il faut imposer le fait de ne pas manger de viande ? Je pense pas. Je pense que c'est à chacun de choisir. Et peut-être que diminuer suffit.
Pensez-vous que manger trop de viande a un impact sur le réchauffement climatique ?
Non, pas du tout.
Est-ce que vous comptez ou avez réduit votre consommation ?
Non, je l'ai augmenté.
Oui.
Peut-être, ouais.
Ouais,
oui, mais bon, on aime trop ça. Donc.
C'est sûr, mais bon, on adore la viande, donc on va pas
c'est
arrêter.
Compliqué. Vaut mieux le diminuer un petit peu, mais pas trop non plus.
Non, pas particulièrement, mais après, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire beaucoup.
J'y vais ou tu vas ?
Bah, vas-y.
Personnellement, ouais, je pense que, bah, déjà, on le sait, au niveau agriculture, l'élevage de bovins, etc., ça demande beaucoup de ressources et forcément, il y a un impact, ouais.
Je pense, oui, quand même, parce que ça consomme pas mal d'eau, ça consomme pas mal de nourriture. Après, je dis pas qu'il faut être vegan, mais peut-être réduire un peu, ouais.
Je pense qu'elle en a un. Par contre, moi, je vais pas du tout limiter ma consommation. Parce que justement, juste en termes de point de vue nutritif, j'ai un peu de mal à aller trouver ce dont j'ai besoin dans les produits végétales.
Ouais, moi, je l'ai pas mal réduite, notamment au niveau de tout ce qui va être viande rouge. J'en mange beaucoup moins parce que c'est, je pense, l'industrie qui consomme le plus. Et qu'on n'en a pas forcément besoin tous les jours, donc j'essaye au maximum de consommer de la qualité et raisonnablement.
Eh bien, question réchauffement climatique, la production de viande est une des grandes causes. L'élevage intensif produit des gaz à effet de serre tout au long de la production. Par exemple, pour nourrir les vaches, on utilise de la farine de soja ou de maïs pouvant venir du Brésil, qu'on a cultivé sur des terres immenses gagnées sur des forêts.
Eh oui! Après 2 décennies de baisse, la consommation de viande affiche une légère hausse depuis une dizaine d'années. De plus, produire 1 kg de bœuf nécessite 15 000 litres d'eau, émet 41 kg de gaz à effet de serre et nécessite 60 mètres carrés de terre. Tout ça pour seulement 1 kg ?
Eh bien, sur ces derniers mots, passons aux solutions et aux idées.
Déjà, moi, je pense qu'il faudrait maximiser le fait de produire localement. C'est-à-dire que tout à chacun, dans notre jardin, ou alors si on n'a pas de jardin, dans les immeubles, qu'on crée des espaces communs où on peut faire de l'agriculture de proximité. Ça pourrait déjà permettre de nourrir plus de personnes. Continuer et accentuer tout ce qui est dons et collecte de denrées alimentaires et redistribution.
Non, franchement, non, je vous avoue, j'ai pas d'idée, là. Je sais pas, planter plus d'arbres, plus de graines.
Il faut faire de l'agroforesterie. Il faut faire un changement radical de production dans le sens où aujourd'hui tranquillement on va les nourrir, hein, il n'y a aucun problème. Mais le problème c'est qu'on ne va pas les nourrir pendant 50 générations. Parce que oui, il suffit de mettre ce qu'on fait en France, vous le faites partout en Afrique, vous le faites partout en Amérique du Sud, on va nourrir tranquillement 15 milliards d'habitants, c'est pas un problème. Le problème c'est que ça ne peut pas être durable. Voilà. D'où les idées d'agroforesterie, d'une agriculture et d'une production de nourriture durable.
J'ai pas non plus spécialement de réponse, on va dire juste peut-être favoriser encore plus du coup la consommation locale et faire en sorte que les populations qui n'ont pas forcément accès à finalement un type d'agriculture, ça puisse en fait les aider à se favoriser eux et qu'ils puissent finalement avoir leur propre agriculture en fonction des terrains sur lesquels ils vivent et de ce qu'ils peuvent développer de leur côté.
Les insectes. Oui. Je pense qu'on va venir aux insectes.
Ouais, les insectes et les productions locales avec les fruits et légumes, ce qu'on peut produire nous dans notre civilisation et dans les pays dans lesquels on est.
Certaines personnes parlaient de manger des insectes, mais est-ce que ça aurait vraiment un impact bénéfique sur l'environnement ?
Oui, produire 1 kg d'insectes nécessite beaucoup moins d'eau, de nourriture et d'espace que pour le bœuf, le porc ou la volaille, tout en produisant bien moins de gaz à effet de serre, dont 40 fois moins d'émissions de CO2 que pour le bœuf. Ils sont une source de protéines pouvant remplacer la viande traditionnelle.
Eh bien, la prochaine fois que je verrai une araignée, au lieu de l'écraser, je la mangerai.
Non, surtout pas. Il faut bien vérifier les insectes consommés et les acheter là où on en vend. Et au lieu de l'écraser, tu peux la récupérer et la poser dehors.
Ok, je ferai ça la prochaine fois. Merci.
De rien. Et dans l'audio suivant, on entend parler de l'agroforesterie. Mais qu'est-ce que c'est ?
L'agroforesterie consiste à planter des arbres en combinaison avec des cultures agricoles, car les feuilles des arbres tombent et se décomposent. Cela crée des sols.
Exact. De plus, elle augmente la richesse de l'écosystème, des réserves en eau et en biodiversité. Et elle compense aussi l'empreinte carbone, car les arbres sont des puits de carbone.
Ça c'est sûr, mais le plus important c'est de ne pas gaspiller.
Oui, car gaspiller c'est laisser partir les ressources de demain.
Sur ce, au revoir. J'espère que cette séquence vous aura plu et à bientôt sur Radio Pablo.
Merci Zayn et Ina de nous avoir nourri en information. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Voilà, c'est la fin de l'émission. Ce qu'il faut retenir, c'est que les actes humains ont des conséquences sur la planète. Nous, les enfants, nous donnons de l'espoir aux adultes. Si vous avez des idées pour l'avenir, n'ayez pas peur du ridicule. Alors prenons de bonnes résolutions pour repartir de plus belle.
Nous remercions M. Courbeau, notre professeur principal de la 5e 4, et M. Tchia, professeur des Ulysses, de nous avoir aidés tout au long de la préparation.
On remercie la Clé des Ondes qui a diffusé notre émission, nos techniciens, Nashen, Falou, Indrin et Matisse. Merci à M. Bono du Clémy qui nous a accompagnés. Merci de nous avoir écoutés, c'était Radio Pablo.
Après la pluie, vient le beau temps.